à tous. C'est avec le plus grand plaisir qu'on se retrouve. Et aujourd'hui, je suis encore une nouvelle fois tout seul avec mon ami Alain Castan.
D'abord, on va faire un petit coucou à Brigitte Cabirol et puis à tous les maires de l'association, puisque, encore une fois, je me retrouve tout seul alors qu'il y a beaucoup d'activités. Mais ça n'empêche que je vais me faire le porte-parole de tous, les maires, des maires ruraux.
Alors, on voulait aborder, parce que c'est d'actualité, aujourd'hui la flamme olympique, elle est dans notre département. Et tu voulais dire un petit mot par rapport à ça?
Oui, je voulais dire, je ne suis pas contre le sport, bien au contraire, je vais les regarder, les Jeux Olympiques, mais la flamme, est-ce qu'on n'exagère pas un peu? C'est vrai que c'est un événement, mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai vu les chiffres qui annonçaient, demandaient au département ou aux communes, c'est de l'ordre de 150 000 euros. Je me pose des questions sur des communes qui sont en difficulté financière. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux boucher des trous, faire des voiries ou avoir un projet culturel plutôt que d'aller balader une flamme olympique? Alors voilà, moi, c'est mon point de vue. Le débat est lancé. Il a été lancé par d'autres radios. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant de manifestations sur la flamme? Je me pose vraiment beaucoup de questions là-dessus.
D'autant plus qu'on en reparlera tout à l'heure. On parlera des difficultés financières du département dues à la nouvelle fiscalité. Effectivement, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un luxe de dépenser de l'argent alors que on va avoir, je ne sais pas, 19 départements qui vont être en difficulté financière.
Mais c'est le problème, on peut en parler de suite. C'est vrai que nous, l'Association des maires ruraux, la dernière Assemblée générale, on a pris une motion pour travailler et venir en aide aussi en même temps, malgré nos difficultés au département. Aujourd'hui, 19 ont pratiquement des difficultés à boucler leur budget. Le nôtre n'est pas mieux loti, puisque Germinal Perrault nous a annoncé qu'il respecterait, comme l'État le demande, surtout les compétences obligatoires et que les compétences optionnelles seront peut-être soit diminuées, soit supprimées. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que quand un projet de commune, jusqu'alors, le département donnait entre 20 et 25% souvent du financement du projet. Si ces 20 ou 25% manquent à l'appel dans les prochaines années, il y a beaucoup de projets des communes rurales qui ne seront pas faits. Parce que ce n'est pas avec les 25 ou 30% de l'État que les communes vont pouvoir clore des budgets à plus de 100 000 euros. Ça voudra dire que les communes n'auront plus de budget, il n'y aura plus d'investissement dans les communes. Et par effet collatéral, ça voudra dire que les entreprises du département travailleront moins. Ça voudra dire qu'il y en a qui mettront la clé sous la porte. Et ça voudra dire aussi que des gens partiront, quoi.
Donc, juste un petit en aparté comme ça, n'est-ce pas un des moyens de diminuer le millefeuille, c'est la volonté avec la loi NOTRe de supprimer les communes et les départements, en asphyxiant financièrement les communes et les départements. N'est-ce pas là un moyen de les supprimer à moyen terme, quoi?
C'est certainement un des vœux du gouvernement, parce que, comme je l'ai rappelé déjà, on est dans une décentralisation centralisée. Ça veut dire que quelque part, c'est un leurre. C'est-à-dire que si on supprime ce qui est les premiers éléments de la Constitution sous la Révolution, qui est la commune, parce que la commune, c'est le premier organisme collectif qui a été créé à la Révolution, si derrière, c'est le département, il va rester que la région et l'État. Mais je m'excuse, mais aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe avec les changements climatiques, quand vous voyez ce qui se passe avec le Covid, quand vous voyez ce qui se passe par rapport à beaucoup de sujets vis-à-vis de l'aide sociale au niveau des populations, je crois que le maire, c'est le personnage, c'est l'élu de proximité auprès des gens. Je vois mal un administré qui a des difficultés à Saint-Léon-sur-l'Isle aller demander à M. Rousset: j'ai un problème, est-ce que vous pourriez le régler? M. Rousset, il a autre chose à faire que de s'occuper d'un administré lambda, plus particulièrement dans une commune rurale. Donc moi, j'y crois pas, même si c'est la volonté, parce que je pense que là, le peuple se révoltera contre des décisions de cet ordre-là. D'autant plus, et je le répète, aujourd'hui, on parle beaucoup de la fiscalité, mais moi, la première question que je pose et que je dis souvent, mais où passent nos impôts? L'État, aujourd'hui, ne nous rend pas compte de ce qu'il fait de nos impôts. Il en redistribue, bien sûr, mais il en garde une bonne partie. Mais où ils vont ? Moi, à mon avis, ils ne vont pas vers les gens qui le payent, déjà. Ils vont plutôt vers des solutions internationales. Et puis, bon, il faudra arriver un jour que, comme la commune, comme l'entreprise, comme le client lambda, comme la région, le budget de l'État soit équilibré. C'est le seul aujourd'hui qui se permet d'avoir un budget qui n'est pas équilibré, d'où résultat une dette de 3 000 milliards d'euros.
Ok, donc sur les communes les départements qui sont en difficulté, mais il y a aussi des difficultés pour les maires à gérer leur commune. Ça devient de plus en plus difficile. Et on le voit, le nombre d'émissions de maires, je ne sais pas sur le département combien il y en a eu qui ont démissionné, mais au niveau national, c'est quand même assez effarant.
Ah, mais ça a doublé.
Et donc, on risque peut-être de se retrouver pour les prochaines élections municipales avec un certain nombre de communes, et surtout des toutes petites communes, qui ne pourront pas présenter de liste.
Mais écoute, Gérard, moi, tu sais que je suis un maire qui tourne, qui va beaucoup. Je vais sur toute la Nouvelle-Aquitaine, puisque je suis le référent des maires ruraux de toute la Nouvelle-Aquitaine. Je vois énormément de maires. Et j'en ai pratiquement un sur deux qui me dit « Je repars pas parce que je n'y arrive plus dans ma commune. J'ai de plus en plus de mal de la gérer. Mais il y a aussi la protection de l'élu. Les gens deviennent vraiment agressifs auprès des élus. Donc quelque part, ces gens-là se disent « Je vais rester chez moi ». Et malheureusement... Ça va se répercuter et dans le monde des élus. Je rappelle qu'il y a 500 000 conseillers municipaux bénévoles. 500 000, c'est quand même énorme. Il y a aussi plusieurs millions de bénévoles dans les associations. Si on enlève tout ça, c'est tout un pan de la République qui se casse la figure. Donc il va falloir réfléchir à ça. Et d'autant plus, je l'ai déjà dit, qu'on a parlé beaucoup d'argent sur les nouveaux régimes de retraite à 64 ans. Mais comme je le répète, on n'a pas regardé les conséquences aussi. C'est qu'à 64 ans, un ouvrier qui aura travaillé toute sa vie péniblement, à 64 ans, il va être usé. Il va penser qu'il y a une chose, c'est que de rester en famille et de rester avec ses petits-enfants. Donc fini le bénévolat dans les associations et fini le bénévolat dans les conseils municipaux. Ça, c'est un vrai danger. Et le deuxième danger derrière, et ça, je veux le rappeler à tous mes collègues maires qui veulent démissionner, si un maire démissionne, ou si un maire ne se représente pas, pardon, et s'il n'y a pas de candidat dans la commune, le jackpot, il est pour l'État encore, parce que le préfet, immédiatement, il va rattacher la commune où il n'y a pas de candidat à la commune voisine. Donc c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, mais quelque part c'est dangereux, c'est très dangereux. Voilà.
D'autant plus qu'au niveau, vous avez sorti une affiche de la MRF, le seul service public qui reste aujourd'hui, c'est la mairie.
Ben, le dernier service public qui reste à moins de 3 minutes de l'habitant, c'est la mairie. Il n'y en a plus. Il n'y a même plus l'église.
Donc si ces communes se regroupent, effectivement, ça va éloigner encore plus la population et accentuer une certaine désertification des zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, une commune qui perd son école, qui perd son boulanger, qui perd un commerce, c'est une commune qui périclite et puis qui risque se retrouver dans ces situations-là dans les années à venir.
Gérard, s'il n'y avait que ça, on pourrait encore essayer de trouver des solutions. Mais ça va plus loin que ça. Sur la mobilité, on nous supprime le rail. On va en parler du rail tout à l'heure parce que c'est important. Mais on nous supprime les gendarmeries. Donc la protection... Et la sécurité, on l'a plus. On nous supprime donc les lieux de culte. Donc pour ceux qui tiennent à leur religion, ils n'ont plus de lieux de culte, que ce soit tous les cultes qui existent. On enlève l'école. Et quand on a dépouillé la commune de tout, eh bien, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste peut-être les agriculteurs, et encore, nous les supprimons aussi. Alors donc, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est dangereux, quoi.
Donc, on va revenir un petit peu sur les difficultés financières. Et à l'heure, nous discutions de la DGF. Donc tu peux dire un petit mot par rapport à ça. D'abord, expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que la DGF.
Mais la DGF, c'est ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement que l'on donne à toutes les communes, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Et c'est vrai que quelque part, notre dernier 36 000 communes au niveau des maires ruraux, c'est fait le titre de notre mensuel, c'est-à-dire on appelait ça les chiffres de la rapine à la DETR, parce que c'est une véritable rapine. Je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, on a fait un audit et on se rend compte qu'aujourd'hui, la DGF est très amputée pour les communes rurales. Moi, j'ai perdu à Rouffignac de Sigoulès sur mon budget en pratiquement 7-8 ans, je vais dire 10 ans pour faire un plus grand écart. J'ai perdu un tiers de ma dotation de l'État. Ça veut dire que, je le répète, ça veut dire que si demain... c'est comme si demain un patron disait à son ouvrier « Bonjour, moi je suis en difficulté, je t'ampute ton salaire d'un tiers ». Voilà, c'est exactement ce qui nous est arrivé dans les communes rurales, particulièrement les communes rurales. Et puis c'est vrai que quelque part, certains ont été un peu plus malins. Alors moi je l'étais un peu parce que j'ai essayé d'aller chercher pour avoir des revenus complémentaires. Par exemple, une aire de camping-car qui me rapporte un peu d'argent. Je suis en projet d'une centrale photovoltaïque. Ça permettra d'avoir un petit pécule de plus pour compenser cette DGF, mais elle ne compensera pas dans sa globalité. Ça veut dire que quelque part, quand un administré vient me voir, il me dit « T'as vu ma route, dans quel état elle est ?» Ben, je lui dis « Je veux bien la faire, mais je n'ai pas l'argent. Comment je fais ?»
Et donc, pour revenir sur cette question-là, donc, dans les discussions, tu précisais que un habitant rural touche moins qu'un habitant urbain.
Un habitant rural aujourd'hui, une commune rurale, parce que la dotation se fait en fonction du nombre d'habitants, des écoles, du territoire, du potentiel fiscal. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communes rurales qui ont un potentiel fiscal très bas parce qu'ils n'ont pas augmenté les impôts depuis des années. Mais c'est le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que si vous augmentez pas les impôts, quelque part, les services ne suivent pas derrière. Et c'est vrai que c'est très important pour une commune d'avoir ce potentiel fiscal. Et donc cette DETR, elle est basée sur toutes ces choses-là. Et il est bien évident qu'une commune rurale, aujourd'hui, touche de l'ordre de 60 euros, entre 60 et 70 euros par habitant. Une ville comme Bordeaux touche entre 120 et 200 euros par habitant. Donc quelque part, le slogan... Deux ruraux sont égaux à un urbain, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme on dit, on a le rat des villes et le rat des champs. Nous, on est le rat des champs et on est bien plus pauvre que le rat des villes.
Et donc, dans ce cadre-là, vous parliez de peut-être faire une démarche au tribunal administratif.
Alors ça c'est nouveau. Allez, c'est un scoop que je vais annoncer. Je suis au conseil d'administration de la MRF et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à travers la Cour des comptes que ce système-là était plus ou moins illégal. Donc ça nous permet aujourd'hui d'envisager, et moi je vais le faire, dans ma commune, je vais attaquer l'État au tribunal administratif pour dire que c'est pas juste et que je veux un juste retour des choses. Alors on est à peu près une trentaine de maires à vouloir le faire, suivi bien sûr par les instances de la MRF. De façon à suivre le dossier. Et on espère que l'État modifiera certaines choses. Et si l'État ne veut pas bouger, eh bien peut-être qu'on proposera à toutes les mairies rurales de le faire.
C'est-à-dire qu'elles aillent toutes au tribunal ?
On ira toutes au tribunal. Puisque c'est un des recours que l'on a. Pourquoi ne pas le...
Donc tu disais dans ton intervention là, que bon, c'était illégal. En quoi c'est illégal? Quel est le texte?
C'est une question de justice. C'est une question de justice. Aujourd'hui, à partir du moment où un individu, quel que soit le lieu où il habite, reçoit de l'État une part minorée par rapport à un autre, c'est quelque chose d'abord d'injuste et puis d'illégal. Voilà, c'est exactement...
C'est plus le principe...
On est dans le principe, aujourd'hui, du salaire des femmes. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi une femme qui fait le même boulot qu'un homme est amputée de son salaire parce que c'est une femme. C'est vraiment une injustice et c'est illégal. Donc nous, on est dans le même cas.
Donc on va clore ce débat-là par une petite pause musicale et on va reprendre sur la question du rail et de la mobilité.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé d'être le plus simple possible pour faire comprendre à nos collègues maires qu'aujourd'hui, il va falloir se bouger parce qu'on est en difficulté.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite.
Donc, à reprendre le débat avec Alain, nous allons. Tu en as parlé tout à l'heure dans ton intervention sur la question du rail et de la mobilité. C'est vrai que la désertification aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes pour les petites communes, d'autant plus que si on ferme des lignes de chemin de fer. Donc, actuellement, je crois que vous êtes en relation avec les camarades du Lot-et-Garonne.
Tout à fait.
Sur la ligne
Périgueux-Agen. Agen-Périgueux.
Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Eh bien, cette ligne, on essaie de la sauver parce qu'elle est perdue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le plat État-Région. C'est-à-dire que jusqu'en 2028, il n'y aura pas un argent de déboursé pour rénover cette ligne et pour la rendre fiable et rentable. Donc, on s'est penché. Le bureau de la MRF a nommé un référent rail, qui est Thierry Aurépaytou, le maire de Lamonzie-Saint-Martin, parce qu'il est, est cheminot, et c'est quand même lui, parce qu'on peut dire tout ce qu'on voudra, de la ministre Madame Borne à l'époque des transports jusqu'à nos députés ou à nos sénateurs, c'est quand même lui qui a amené le combat pour sauver la ligne Bordeaux-Sarlat. Cette ligne de Bordeaux-Sarlat, d'après l'État et d'après la région, elle était obsolète, elle était en perte de vitesse et qu'elle n'était pas rentable. Aujourd'hui, cette ligne est sauvée par les actions qu'ont menées les élus. Aujourd'hui, c'est 1 million de passagers. C'est une ligne qui est devenue rentable et c'est une des premières lignes en France qui voit les voyages scolaires en train. Donc, quelque part, on se dit que le réseau ferroviaire français existe et qu'il va falloir, le défendre. Et donc cette ligne AGM Périgueux, nous, on veut faire la même chose. Mais on veut faire la même chose d'une autre façon, puisque, étant pas prévu dans le plat État-Région, ce que l'on souhaite, c'est au moins la maintenir à flot, de façon que dans le plat État-Région ou dans le prochain, elle devienne prioritaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là aussi, c'est un scoop. On se réunit vendredi, les maires de la ligne, c'est-à-dire de Le Buisson, Mont-Saint-Pron, Belvès, tout un tas de maires de communes qui sont sur cette ligne. On va se réunir et on va proposer des actions. La première a eu lieu puisqu'on a fait deux manifestations, une à la vallée de la Lémance, l'autre à Mont-Saint-Pron, où on avait 80 à 100 maires réunis avec des écharpes. Mais ce n'est pas suffisant, on n'a pas été écoutés, on a juste été un peu entendus, mais ben, ce n'est pas suffisant. Et donc on va passer le palier supérieur, donc on va réfléchir. Et l'idée qui germe, alors sous toute réserve, l'idée qui germe, c'est de proposer aux maires du Lot-et-Garonne et de la Dordogne de fermer pendant une heure les bureaux de vote lors des élections européennes. Donc là, je pense que ça va faire bouger les lignes. Notre souhait, donc, c'est de dire à M. Rousset et au préfet de région, « Messieurs, cette ligne est vitale pour nos deux départements, donc il faut la sauver, donc il faut au moins la tenir à flot en attendant de faire les travaux. » Voilà un petit peu l'idée. L'idée, et là, il y a un consensus des maires pour faire quelque chose. Alors, c'est une des possibilité. Maintenant, on va réfléchir. Par contre, on va réfléchir et avant les élections européennes, il y aura une conférence de presse où on expliquera les tenants, les aboutissants du mouvement.
Donc, c'est dans 3 semaines, en gros, cette action.
C'est ça. Donc, ça va aller vite.
Donc, ça pose aussi un certain nombre de problèmes, peut-être administratifs. Le fait, théoriquement, les bureaux de vote doivent ouvrir à 8h le matin, donc vous proposez de les ouvrir à 9h.
Alors, la plage horaire, elle n'a pas été encore déterminée. Mais l'idée, c'est de les fermer pendant une heure.
Ça peut être dans la journée,
ça peut être un scrutin clos à 17h, on ne sait pas encore. Mais l'idée centrale, c'est celle-là. Mmh. C'est de dire, on n'est pas d'accord, Il faut qu'on nous écoute. Et donc, quelque part, il faut mener une action. Et moi, je le dis depuis longtemps. Je me bats au conseil d'administration de l'AMRF. Je le dirai au prochain congrès. Si l'association, aujourd'hui, veut être plus écoutée, elle est écoutée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Monsieur Macron nous écoute, mais il n'agit pas. Donc nous, maintenant, on veut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire on voudrait qu'il agisse. Donc on va essayer d'avoir des actions qui feront que l'État bougera. On le voit à travers les agriculteurs, et à travers le mouvement de monter à Paris, ça a débloqué des situations. Pas toutes, bien sûr, mais ça a débloqué des situations. Je le vois aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, ça finit dans le sang et ça finit avec des émeutes. Mais bon, le président y va. Donc ça veut dire quelque part qu'il est inquiet de la situation. Et plein de choses comme ça. Donc quelque part, alors, les maires, on n'est pas des révolutionnaires. Ça, je le sais, moi le premier. Mais il y a un moment donné, il faut taper sur la table et dire... quand même, les élus du peuple, c'est nous, ce sont nous, ce ne sont pas les énarques de Paris et ce ne sont pas nos ministres.
Donc, par rapport à. C'est pour vous faire entendre sur le fait de maintien de cette ligne, est-ce que vous avez des propositions à faire pour le maintien de cette ligne, par exemple, peut-être plus de trains, changer des horaires
Alors,
l'idée. C'est bien de dire l'idée, on maintient une ligne, mais.
L'idée de Thierry Auré-Paytou, la maintenir à flot, ça veut dire quoi ? La maintenir à flot, c'est de faire les réparations sommaires chaque fois qu'il y a un incident. Un arbre qui tombe, une poutre à changer, enfin, tout un tas de priorités à faire. Mais surtout... d'avoir des horaires qui correspondent vraiment à quelque chose. Et aujourd'hui, il y a, sur cette ligne, il y a 4 horaires par jour, 2 à l'aller, 2 au retour. Et l'idée qu'on a, c'est de faire modifier ça, c'est tout à fait faisable. C'est de modifier les horaires en fonction des ah, ça y est, j'ai perdu le mot.
Des liaisons.
Des liaisons, voilà. Merci Gérard. Des liaisons. La première pour Agen sur Marseille et Bordeaux. Et la deuxième pour Périgueux, sur Bordeaux et Lyon.
Et vous avez...
Et donc adapter les horaires en fonction que quand les gens prennent... Je vais prendre un exemple. Quelqu'un prend le train au Buisson, il veut aller à Lyon, il prend le train au Buisson, il va chercher son train dans la liaison, mais quand il arrive à la liaison, il n'attend pas 3 heures ou 4 heures. Il a pratiquement sa liaison dans les 10 minutes qui suivent. Quoi. Voilà, c'est ça. Le but de sauver la ligne, de remettre la ligne à flot, c'est celle-là.
Et tu parlais aussi que la ligne Périgueux... Non, Bordeaux...
Non, la ligne... Il y a eu celle qui a été rénovée, ça a été la ligne Bordeaux-Sarlat.
Bordeaux-Sarlat.
Qui passe par Bergerac, Castillon et Libourne.
Et donc tu disais que cette ligne est de plus en plus utilisée pour les transports scolaires.
Ah oui, c'est une première. Il y a des élèves des collèges de Bergerac et qui habitent sur la ligne en allant vers Libourne. Qui prennent le train maintenant pour aller sur Bergerac. Et à Bergerac, la communauté d'agglomération a pris des initiatives. C'est-à-dire que quand le train arrive, par exemple, je prends un exemple, si le train arrive à 7h50, il y a un bus de la ville qui attend. On a adapté le réseau bus de la ville de Bergerac qui les amène au lycée ou au collège.
Et donc... J'aurais ces mêmes propositions sur la ligne Périgueux-Agen.
On pourrait la faire.
Parce que aussi, c'est important, parce qu'on voit les gamins en bus, ça fait des fois des trajets de plus d'une heure pour aller...
Alors, le pari qu'on s'est fait, parce que c'est pareil aussi, on en a parlé, on en reparlera, on fera une réunion là-dessus. L'AMRF, on a réussi au niveau national à créer un comité d'éducation et ruralité. Elle a été mise en place en Dordogne par la directrice d'académie de la DSN. Il y a 3 maires ruraux qui y sont dedans. 3 maires, bien sûr, de l'association de l'Union des maires. Il y a 3 élus du département. Et autour, autour du sous-préfet chargé en charge de ce projet de la ruralité, c'est le sous-préfet de Bergerac, M. Carr, et puis bien sûr des services de l'inspection académique, on est en train de travailler sur l'avenir de nos écoles. Il ne faut pas oublier qu'encore cette année, on a 500 enfants de moins dans les écoles. C'est énorme. Et donc, on est en train de travailler sur un schéma départemental de façon à essayer de trouver des solutions pour, d'une part, pour que les élèves puissent aller dans les écoles dans les meilleures conditions, mais en même temps, ne pas les fermer. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, c'est à travers les postes. Et donc, quelque part, dans nos propos et dans nos études que nous faisons, la mobilité a une part prépondérante. Parce qu'aujourd'hui, le pari que l'on veut faire... C'est un petit peu dans les... C'est plus ou moins réel, mais on ne veut pas qu'un enfant fasse plus de 20 minutes de bus.
Donc, effectivement, aujourd'hui, on revient à tous les problèmes de tout à l'heure.
Toujours les mêmes.
De financement et de désertification. Une commune, s'il n'y a pas une école, c'est la désertification et on amène un certain nombre de problèmes. Alors je pense qu'effectivement, le combat pour le maintien de cette ligne, ça peut permettre aussi, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas bien toutes les communes qui sont desservies par cette ligne, peut-être le maintien de certaines écoles
peut-être
avec des effectifs un peu plus restreints, mais je crois que on fait des écoles... avec moins d'élèves dans certains départements, je ne vois pas pourquoi en Dordogne on ferait des classes avec des classes de 30, alors qu'on pourrait peut-être maintenir 15-20.
Il faut être réaliste. On ne peut pas faire des écoles avec 500 élèves de moins régulièrement tous les ans. C'est vrai, il faut en tenir compte aussi. Il faut être réaliste. Il faut que les maires soient réalistes. Et on l'est. Et c'est vrai que quelque part. Le fait de pouvoir discuter, Madame Malabre, la directrice du département au niveau de l'éducation nationale, écoute. Elle écoute les élus. Moi, je la trouve vraiment formidable dans ce sens-là. C'est-à-dire que on essaie ensemble de trouver des solutions qui soient le plus pragmatique possible. C'est-à-dire, encore en parlant de l'enfant, parce que le thème central pour nous, les élus, c'est pas le rail, c'est pas l'école, c'est l'enfant. Et ça, c'est important. Et Mme Alabre l'a très, très bien compris. Et elle nous aide là-dessus. Elle nous aide. Alors, c'est vrai que quelque part, il y a des écoles qui ferment, mais on ne peut pas faire autrement. Quoi.
Oui, donc on y reviendra, je pense, sur une prochaine émission, parce que bientôt, il va y avoir les discussions de l'éducation nationale sur les prochains postes pour la rentrée prochaine. Donc, on pourra aborder cette question-là. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Un dernier petit mot, Alain, sur... on ne va pas parler des élections européennes parce que bon...
C'est interdit, mais je dis aux gens, allez voter, c'est
voilà,
important.
Peut-être ça.
Allez voter, c'est important. Quel que soit le candidat pour qui vous votez. Alors, ce que je peux trouver illogique aussi, c'est ces 37 listes. 37 listes, ça me paraît aberrant. D'autant plus que les communes rurales, aujourd'hui, le grand problème qu'on a, c'est de trouver des panneaux électoraux. Parce que bientôt, on aura des panneaux électoraux qui traverseront tous les villages et qui feront toute la longueur de la voirie. Donc ça c'est un problème à soulever. C'est vrai que quelque part, bon, il faut respecter la démocratie. Ça, c'est une bonne chose. Donc aller voter, c'est ce qu'on peut dire aux gens. Par contre... je sais que Gérard, tu nous as proposé quelque chose dont je serais vraiment enchanté de pouvoir en parler, enchanté dans le sens où on en parle, mais pas enchanté dans le sens de ce qu'a fait l'État et comment ils ont été aidés. Mais lors d'une prochaine réunion, tu as proposé de parler des catastrophes naturelles et plus particulièrement du secteur de Ribérac qui a été très touché, où on est beaucoup intervenu. Peut-être qu'on ira à Ribérac voir tout ça avec le maire de Ribérac et qu'on pourra au moins faire le point de ce qui a été positif et de ce qui est négatif.
Bon, ça sera le cas de notre prochaine émission
sur
la catastrophe naturelle. Ça fera 2 ans que Ribérac a subi cette catastrophe. On fera le point avec M. Platon, qui est le maire de Ribérac. Je vais finir par un dernier petit mot. Donc, chers auditeurs, allez voter le 9 juin, même si le bureau de vote est fermé pendant 1 heure.
Allez,
à bientôt, au mois prochain.
Ouais, pas tout seul.